Chut, article 2. Afin de poursuivre l'article 1 touchant à ce même chapitre, j'aimerais insister sur ce processus dont nous sommes, nous autres humains, l'expression et donnant naissance de façon croissante à l'individualisme. Décrit autrement, cet éloignement constant constaté entre notre entendement et notre espérance de vie génère le soi, c'est-à-dire la transformation de cette espèce de rivalité en personnalisation. Dit encore autrement, pour pouvoir vérifier à partir de nous, en nous, cette dualité, cette opportunité empoisonnée fait de nous un être indépendant de l'espèce à laquelle il appartient. Et cet aperçu est mécaniquement plus sensible à ce qui se déroule tout en nous, bien plus qu'au sein de cet ensemble vivant où se tiennent nos origines. Finalement, nous pouvons dire de nous que ce particularisme qui nous distingue à l'unité est le produit d'une sorte de no man's land, incarnant cet espace se tenant entre notre entendement et notre espérance de vie. Mais plus encore, ce qui fait se regarder à travers ces deux instances en nous n'a de cesse de gagner en intensité. Plus notre entendement prend conscience de ce peu de vie dont il bénéficie, mêlé de surcroît aux incertitudes qui lui sont rattachées, plus celui-ci gagne en force et plus sa puissance augmente, plus cette même espérance de vie lui semble étriquée, le conditionnant pour compenser à se faire plus conséquente en s'abandonnant une forme d'intelligence non-intelligence pour ne pas savoir se raisonner et pour se développer sous les influences de ce même no man's land, n'ayant de cesse à son tour de se faire plus vaste et par voie de conséquence plus accaparant. Cette pseudo-intelligence-là, sous la pression, cède à une forme de réactivité par définition négative, l'amenant à se transformer en ingéniosité, c'est-à-dire en une intelligence sans perspective, désireuse seulement de corriger le tir, à ce moment avant tout où ceux-ci sont ressentis, le faisant par ses réactions plus conséquents encore. Cette manière confère à nos pérégrinations ces pourquoi spécifiques, tributaires d'une immédiateté dépourvue de projection à long terme, pour contrecarrer les effets d'une urgence toujours plus insistante, fruit de cette rivalité entre notre entendement et notre espérance de vie. Dans l'article 1, j'ai sommairement pris pour exemple au contraire le lion. Celui-ci, comme toutes les autres races de ce monde, ne souffre pas de cet éloignement dont nous sommes victimes en nous, entre notre entendement et notre espérance de vie. Les deux sont comme imbriqués au sein de leur nature respective, les motivant inconsciemment bien sûr à être plus attachés au sort de l'espèce qui est la leur qu'à leur vie propre. Bien sûr, l'on me rétorquera que tout cela partage avec nous ce souci consistant à fuir ce dernier souffle annonçant notre fin, mais la perception de cette terminaison n'est pas intellectualisée comme nous y réussissons. Déjà pour être admise en dehors de toute anticipation, en l'occurrence pourront être calculées sur un temps à ce point long, qui s'étale en ce qui nous regarde sous la longueur totale de notre vie même. La race, pour tout cela, incarne toujours de façon inconsciente un genre d'éternité. Évidemment, il est simple d'admettre qu'à l'opposé, cette fragmentation qui se remarque en nous et qui devrait faire de nous plus des êtres vivants que des individus à part entière, au-delà de faire voler en autant de morceaux la race qui est la nôtre, la fait se volatiliser en autant d'éléments féminins et masculins qui la constituent. Ainsi, nous sommes confrontés à un dilemme synonyme d'autodestruction, car plus notre entendement se développe pour contrecarrer les effets prodigués par notre espérance de vie, plus celle-ci, paradoxalement, à nos dépens, gagne en évidence.